Bonjour, chers membres et de gestion et associés. Notre association internationale et nos associations nationales veulent contribuer à la formation de leurs membres et des gestionnaires de leur environnement. Cette présentation souhaite préciser les orientations que pourraient adopter nos associations et notre comité en charge des activités de formation au plan national et international. Tous les acteurs nationaux et internationaux, que ce soit la Confémène, la Banque mondiale, l'UNESCO, les Nations unies, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, etc., reconnaissent que nos systèmes éducatifs sont sous l'emprise d'une crise générale des apprentissages fondamentaux. Selon toutes ces organisations, à la fin du primaire, 60% des élèves ne maîtrisent pas les apprentissages de base en français et en mathématiques. Cette crise de l'apprentissage doit constituer notre préoccupation essentielle. Cette crise tragique peut s'expliquer par des facteurs externes, comme les diverses crises qui ont affecté ou affectent toujours les systèmes éducatifs nationaux. Ceux-ci souffrent également d'un manque chronique de ressources qui limite leur efficacité à atteindre leur finalité éducative. Mais malgré ces contraintes, la crise de l'apprentissage découle également de causes internes au système. Les éléments, les interactions et les ressources du système sont souvent désalignés par rapport à la finalité du système éducatif. Les ressources, si rares, ne sont pas gérées de manière efficace. Pour changer un système, il ne suffit pas de changer un seul élément, une seule structure, un seul fonctionnement. Il faut un changement de paradigme, un changement de vision, un changement d'attitude. Nous soumettons l'idée que pour améliorer le système éducatif, il faut adopter une vision systémique différente de la vision hiérarchique et autoritaire actuelle. Autrement dit, pour améliorer les systèmes éducatifs, il faut adopter une vision systémique. Précisons maintenant ce qu'est une vision systémique. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Un système doit obligatoirement contenir plusieurs éléments qui doivent manifester des interactions dynamiques et être agencés en fonction de l'atteinte d'un but partagé. Un système est donc présenté graphiquement par ses différentes composantes comme celles qui sont illustrées à l'écran actuellement. Des éléments, des interactions, un but. Ces interactions entre les éléments requièrent des ressources, qui sont contrôlées par des vannes ou des filtres. Ce système est inséré à l'intérieur d'une frontière qui précise ses limites. En raison de toutes ces composantes, un système social est toujours caractérisé par une grande complexité et une grande variété. Cette structure ne représente pas adéquatement un système éducatif, comme celle-ci ne représente pas un être humain. Dans un système social, les interactions, les ressources et les finalités sont aussi, sinon plus importantes que les structures. Et l'une des interactions essentielles d'un système, c'est sa gestion, c'est-à-dire l'organisation des éléments, des ressources et des interactions du système en fonction de sa finalité. Dans ce contexte, nous pouvons concevoir le leadership comme la compétence favorisant la convergence des éléments, des ressources et des interactions du système vers sa finalité. La gestion constitue donc une fonction essentielle d'un système. Cette fonction n'est pas innée, c'est une compétence qui s'apprend. Et comme toute compétence, elle exige des savoirs théoriques, des savoirs procéduraux et des savoirs pratiques. Ces savoirs ne s'acquièrent pas en enseignant. Enseigner n'est pas gérer. On peut être un enseignant modèle et expérimenté et ne pas posséder les compétences nécessaires pour gérer un système éducatif. On hésite à confier une classe à un enseignant sans formation. On devrait hésiter beaucoup plus à confier la gestion d'un établissement de plusieurs centaines ou milliers d'élèves à une personne qui n'a pas les compétences pour le faire. Or, nous savons tous que c'est la pratique la plus commune actuellement. Des recherches récentes ont démontré que l'apprentissage de la gestion ne s'effectue pas principalement dans un cadre formel ou institutionnel. Selon le modèle 70-20-10, les apprentissages en gestion se réalisent pour seulement 10% dans des cours, des séminaires, des programmes officiels de formation, selon la formation traditionnelle. Plus de 20 % des apprentissages des gestionnaires se réalisent grâce aux interactions sociales avec leurs collègues. Et la vaste majorité des apprentissages en gestion s'acquièrent grâce à une expérimentation réfléchie par l'expérience pratique supportée par une réflexion, un processus de résolution de problèmes. En plus de se fonder sur le modèle 70-20-10, la formation et du gestion visera à respecter les caractéristiques de l'apprentissage des adultes. L'apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage. En pédagogie, la relation entre l'élève et l'enseignant est très hiérarchisée. En andragogie, l'adulte doit participer dans la planification et l'évaluation de ses apprentissages. Le formateur doit impliquer l'apprenant, lui demander quels sont ses objectifs, pourquoi il suit la formation, ce qu'il attend de cette dernière, etc. L'expérience propre de chaque apprenant adulte doit être prise en considération. Chaque apprenant adulte détient sa propre expérience. Les échanges sont donc motivateurs parce qu'ils proviennent de contextes réels auxquels l'apprenant peut associer ses nouveaux apprentissages. L'expérience personnelle de chaque apprenant doit être prise en compte dans les activités d'apprentissage, car ce bagage constitue une ressource importante pour leur formation. Les apprentissages doivent être reliés à des contextes réels de leur vie ou de leur emploi. Les apprenants adultes ont besoin de concret. Ils veulent savoir pourquoi cette formation est importante et quelles en sont les applications réelles. Ils ont besoin d'être convaincus. Les apprentissages doivent être en lien avec des situations réelles. Pour ces apprenants, le terrain est le lieu de la compréhension. Il faut miser sur une mise en pratique des résolutions de problèmes. Il faut éviter la mémorisation du contenu. Il faut rester dans la mise en pratique. La rétention est beaucoup plus importante chez l'apprenant adulte lorsqu'il est mis en action avec des activités pratiques immédiatement après avoir acquis de nouvelles connaissances. Les apprentissages doivent être reliés à des applications immédiates. L'approche par compétences nous incite à favoriser l'acquisition de savoirs théoriques, mais aussi et surtout des savoirs procéduraux, des savoir-faire, et des savoirs pratiques applicables dans des situations réelles. Les fondements de l'APC comprennent les items suivants. Les connaissances sont construites. La connaissance est activement construite par celui qui apprend dans chacune des situations où cette connaissance est utilisée ou expérimentée. L'apprenant doit être au centre du processus. La connaissance est expérimentée au moyen d'une activité cognitive de création de sens par l'apprenant. Le rôle de ce dernier est donc primordial. L'apprentissage se réalise grâce aux interactions qu'il établit entre les diverses composantes de son environnement. Le contexte d'apprentissage joue un rôle prédominant. L'activité de l'apprenant est toujours insérée dans un environnement qui rend l'appropriation possible. Le processus d'apprentissage se déploie dans une réalité culturelle et contextualisée. Le formateur utilise ses propres savoirs et son expérience pour donner du sens et de la pertinence aux apprentissages. Dans nos formations, nous allons suivre les phases d'acquisition d'une compétence. La phase d'exploration est l'élément déclencheur permettant à l'apprenant de saisir la pertinence de la compétence en relation avec le métier, lui permet de se mobiliser et de se mettre en projet, de situer les étapes à franchir, de rappeler les connaissances antérieures et les mettre en relation avec les nouveaux apprentissages. Dans la phase d'apprentissage de base, les éléments de compétences, les savoirs qui s'y rapportent, concourent à la sélection des apprentissages de base. L'apprenant traite l'information reçue, se met en action pour construire d'autres connaissances, à développer d'autres habiletés et à adopter d'autres attitudes. Dans la phase d'interrogation-entraînement, l'apprenant est amené à faire des liens entre les différents éléments de la compétence et à situer l'exercice de celle-ci dans sa globalité. Mise en situation, résolution de problèmes de plus en plus complexes, rappel des apprentissages antérieurs, activités signifiantes, jeux de rôle, répétition, travail d'équipe, etc. Les activités de transfert peuvent s'exercer dans le poste de travail, en stage ou dans la communauté. Conçues comme aide à l'apprentissage, les activités doivent permettre le développement de la compétence et son application dans sa globalité, dans des contextes variés et comparables. La phase d'enrichissement permet de poursuivre l'apprentissage au-delà des performances exigées. Par exemple, les activités proposées amènent l'apprenant à élargir sa compréhension, à améliorer un produit, à exécuter une tâche plus rapidement ou avec une plus grande autonomie. Il peut aussi coordonner plusieurs actions en même temps ou varier le plus possible les situations d'exercice. Nos activités viseront une formation systémique, se préoccupant moins des structures que de la finalité, des interactions et des ressources à l'intérieur du système. Nous tenterons de comprendre la complexité des systèmes dans lesquels nous travaillons et la variété de plus en plus nécessaire pour résoudre les défis rencontrés. Nous proposerons de développer un leadership systémique fondé sur la collaboration et l'alignement de toutes les composantes du système vers l'atteinte de sa finalité. Selon le modèle 70-20-10, une partie importante des apprentissages en gestion s'effectue par l'interaction sociale. En complémentarité avec les apprentissages théoriques, nos formations visent à favoriser la formation par les pairs, le partage d'expertise et d'expérience. Le résultat souhaité serait la création de communautés d'apprentissage professionnel intégrant tous les personnels de l'école ou du milieu en vue de l'atteinte de la finalité éducative du système. Ces communautés d'apprentissage deviendraient des organisations apprenantes en réaction aux défis croissants et constants qui caractérisent les systèmes sociaux. Dans ce contexte, les formations viseront le développement des habiletés sociales des gestionnaires, que Henry Mintzberg nomme le communityship, que l'on pourrait traduire en français par communabilité, l'habilité communautaire des dirigeants. Pour développer notre système de formation, nous pourrons compter sur beaucoup de ressources qui sont déjà présentes parmi nous. L'ensemble de nos membres qui deviendront, nous l'espérons vivement, une communauté d'apprentissage professionnel. La variété de ces membres qui proviennent de contextes éducatifs diversifiés et qui occupent des postes à divers niveaux des systèmes. Les alumni GSE qui pourront contribuer leur expertise en gestion et en ingénierie de formation. Les gestionnaires expérimentés parmi nous qui pourront partager les apprentissages réalisés dans leur carrière en gestion. Les membres qui ont fait l'expérience de la formation à distance pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Les membres aussi qui ont suivi des cours en ligne sur le tutorat. Nous avons donc des ressources avérées qui soutiendront nos activités de formation. Nous pouvons compter également sur des outils très utiles. Notre site Internet, fondé il y a presque 10 ans, facilitera nos activités de formation. La plateforme Moodle que nous maîtrisons est reconnue mondialement comme l'une des plus efficaces en formation à distance. Notre site contient déjà plusieurs modules sur des compétences spécifiques et transversales en gestion. Notre bibliothèque professionnelle donne accès à plus de 600 documents sur la gestion des systèmes éducatifs. Nous avons donc des ressources et des outils suffisants pour mener à bien notre projet de formation. Le comité formation, qui regroupe des membres de toutes nos associations nationales, devra développer un leadership interne en vue d'assumer la responsabilité de l'organisation des activités de formation. Au plan national et international, un leadership devra également se manifester. Peu à peu, nous viserons 3 types d'activités. Des formations en ligne, constituées de modules répondant aux besoins des membres et des gestionnaires de nos environnements. Même dans ces formations plus théoriques, on favorisera le développement de l'apprentissage mutuel et autonome. Des formations par les pairs pour créer des communautés d'apprentissage professionnel et des formations visant le développement de l'apprentissage autonome par l'expérimentation réfléchie. Toutes ces activités de formation s'aligneront, nous l'espérons, avec la finalité de notre réseau de gestionnaires, nous habiliter à mieux gérer afin d'assurer un leadership systémique national et international, favorisant l'atteinte de la finalité du système éducatif et notamment des apprentissages de base. C'est un projet éminemment ambitieux qui dépend de l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous, et nous espérons que vous contribuerez activement à sa réalisation.